L'Évangile de Luc, chapitre 21, les versets 25 à 36. Luc, chapitre 21, versets 25 à 36. Au nom de Jésus. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendue inquiète par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux trembleront. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter devant le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Bonne année à toutes et à tous. Ah, ça vous étonne? On n'est qu'au 27, 28. Certains vont me dire, vous êtes trop en avance. Et je vous répondrai sans hésiter, oui, certainement, c'est justement l'esprit de l'avant. Avant. Un jeu de mots, avant, A-V-E-N-T, et avant, A-V-E-N-T. L'esprit de l'Avent, dans la liturgie, c'est la nouvelle année liturgique. C'est pour ça qu'on a changé ici les couleurs liturgiques pour dire que voilà, le roi est là. Il ouvre une nouvelle année. Oui, c'est justement, comme je l'ai dit, l'esprit de l'Avent. Nous voyons de loin une nouvelle ère qui pointe à l'horizon. Voilà l'avant, A-V-E-N-T. Et il n'y a pas de texte, je pense, plus idéal, plus approprié que ce que nous avons aujourd'hui, qui parlerait de la fin du monde pour la plupart des lecteurs. Quand ils lisent ce texte, ils disent « c'est un texte sur la fin du monde ». Et c'est faux. On ne parle pas de la fin du monde. Ce texte ne parle pas réellement de la fin. Même si vous étiez un peu traumatisé en écoutant ce qui a été dit. Mais en terminologie théologique, biblique, quand on parle du temps de la fin, on l'exprime par le mot, un peu savant, mais je vais vous l'expliquer, l'eschatologie. L'eschatologie, cela vient du grec « eschaton ». L'eschaton, comment l'expliquer, est comparé à une image d'un horizon. Quand vous voyez à l'horizon, vous allez à la mer, vous voyez l'horizon au fond. Et que voit-on? Deux choses à la fois. D'un côté, on voit au large la limite. Vous dites « voilà, c'est la fin ». Mais en même temps, cette fin n'est pas saisissable. Plus vous avancez, plus cet horizon se déplace. C'est ça l'eschaton. Plus on y avance, plus le large semble s'éloigner. N'est-ce pas depuis votre tendre enfance que vous avez entendu « Le Christ reviendra » Ben, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Et certains se moquent de nous, mais ça fait depuis toujours qu'on a entendu cette parole. C'est ça l'eschatologie. Une très belle explication qui le résume bien, c'est ce passage qui dit « Le passage de l'avenir au présent ». Le passage de l'avenir qui vient au présent. C'est ça l'avant. C'est justement ce que notre texte en parle. Dans un premier temps, il semblerait annoncer la fin d'un monde et non la fin du monde. Vous voyez la nuance ? Il parle de la fin d'un monde et non pas la fin du monde. Comme quoi, il n'y aura plus rien après la fin. Non, ce n'est pas ça le message de l'eschatologie. Cette fin est marquée par l'ébranlement des puissances des cieux, comme il est dit dans le texte. Le soleil, la lune et les étoiles vont être secouées, c'est-à-dire les choses d'en haut, et les choses ici-bas aussi, les océans vont faire du bruit. En écoutant ce texte et en fermant les yeux, écoutant ce passage du verset 25 et 26, j'ai l'impression que je reviens avant l'histoire de la création du ciel et de la terre. Il y avait le chaos, il n'y avait rien, l'océan qui était là, le noir, les ténèbres. Ensuite, Dieu a créé les luminaires. Jésus nous parlerait alors d'un chaos dans le monde. Un chaos qui s'approche du chaos primitif au tout début. N'est-ce pas ce qui se passe déjà dans le monde ? Tout est chamboulé. On vit dans un chaos, dans une cacophonie. On ne sait plus quoi faire. On a tout essayé. Quand je regarde un peu le comité de concertation avec leurs frondes, les sourcils, ils ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe ? On a atteint le taux de vaccination le plus élevé en Europe, mais ça ne passe pas. Ah. Le chaos primitif. Ce chaos primitif qui était en ébullition avant la création du ciel et de la terre, et toutes ces créatures dans les cieux, le soleil, lune, étoiles, ainsi que les créatures dans la mer. Ce que je constate ici, c'est comme une image d'une mère en pleine gestation. Vous voyez, la maman pendant l'accouchement. Un déchirement, des cris, des larmes, comme si c'était la fin, comme si elle allait mourir, avant de donner naissance à son nouveau-né. C'est ça aussi l'eschatologie. Au milieu de cette tourmente, il y aura une naissance après, une nouvelle vie. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la fin, c'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'agonie de la maman qui lutte pendant l'accouchement. En même temps, elle lutte contre la mort avec toutes les restrictions qu'elle doit suivre pour que la naissance de son bébé arrive à terme. Elle accepte tout pour que cette vie soit là. Et c'est pour cette raison que pour notre texte, il est plutôt question de la fin d'un monde et non la fin du monde. Si vous lisez la Bible tout entière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le fil rouge de toute la Bible en matière de la fin des temps ne parle pas d'un grand jour où tout va se terminer. Moi, en tout cas, c'est ma lecture. Je ne sais pas la vôtre. La Bible ne parle pas d'un grand jour où tout va se terminer. Dès le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quel est le message principal ? Le chaos et les tohu-bohu avant la création. Avant la création, il y a eu le chaos. N'est-ce pas ? Avant que Dieu dise que la lumière Il y avait cela, il y avait d'abord du chaos. La passion du Christ, avant la résurrection, il y a eu la passion. C'est un passage obligatoire. La vision apocalyptique de Daniel et de Jean véhicule la même idée. Il faut que ce monde soit détruit pour qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaissent. Donc, quand vous parlez de la fin à vos amis, à vos parents, à vos connaissances, parlez plutôt de cette nouvelle vie qui va venir. Ne focalisez pas sur cette fin ou sur ce chaos. Le plus important, c'est le bébé qui naît, n'est-ce pas? On oublie tout. La vie est là. N'est-ce pas l'image, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un accouchement? Et aujourd'hui, comme nous traversons l'hiver infernal, le froid, c'est nécessaire. Il faut que les insectes et les microbes meurent afin que nous ayons une bonne terre par la suite et pour espérer une bonne récolte. Ce n'est pas pour rien si Paul a crié devant la mort dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 55. La mort a été engloutie dans la victoire. J'aime bien cette première partie. La mort a été engloutie dans la vie. Dans notre connaissance, c'est comme si la vie a été engloutie par la mort. C'est la fin. La personne vient de mourir. Donc, dans notre conscience collective, c'est la mort qui engloutit la vie. Non ! Paul dit, la mort a été engloutie dans la vie. Et là, il crie, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? C'est ce qu'on appelle une belle mort, car elle débouche à une vie. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, et pour ceux qui luttent encore pour le passage de l'autre côté, ce n'est pas la fin, c'est un début. Gardez ça dans votre vie, et vos larmes sécheront toutes seules. Oui, ses yeux sont fermés, mais la mort vient d'être engloutie. Et la vie est là, derrière ce que vous voyez. Dans un deuxième temps, ce texte, après avoir parlé d'une fin, mais pas de la fin, il dit, quand cela commencera d'arriver, tout ce qui a été dit, le soleil, la lune, les étoiles qui vont être secouées, quel est le message qui dit, pleurez ? Ou fuyez ? Non. On ne sera pas comme les catastrophistes, comme les Américains qui vont créer des bunkers. Oh, il faut prendre les rations de nourriture, il faut s'enterrer dans la terre parce que la faim est là. Au contraire, redressez-vous. C'est ce qui est écrit, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Levez la tête, ne courbez pas, ne pleurez pas. Levez la tête parce que votre rédemption est là. Le monde, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va boire de l'alcool. Il va se droguer parce qu'il dit c'est la fin. Il va fuir. Il va faire toutes ces conneries. Nous, au contraire, on se lève puisque le maître arrive. Celui que tu crois, tu vas le voir de tes propres yeux. Il annonce un renouvellement, une nouvelle page qui s'ouvre à l'humanité. Mais cette nouvelle création, étonnamment, dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse? Ce nouveau monde qui va venir ne contiendrait plus aucune de ces choses citées dans la première partie de notre texte. Dans l'Apocalypse, il est dit, il n'y aura plus ni de soleil, ni des océans. Et c'est le texte aujourd'hui, pourtant il dit, tout ça va s'effriter. Dans le nouveau monde, il n'y aura plus de soleil, ni d'océan. C'est-à-dire que le temps n'existera plus. Quand on parle de soleil, ça parle du temps. Le temps n'existera plus. Et lorsque le temps n'existe plus, chers amis, cela veut dire que c'est la vie éternelle en permanence. On en avait parlé au Jack vendredi, ils étaient un peu déboussolés. C'est quoi une vie éternelle? Il fera quelle heure? Il n'y a plus d'heure. On n'a plus besoin de vos smartphones, il est quelle heure? On est où? on est dans l'espace de Dieu, dans le monde où il n'y a plus d'heure. Et c'est ça la libération, on ne sera plus pressé de partout. Il faut courir, parce qu'il faut toujours courir derrière l'heure. L'absence de la mère, qui est un signe de la mort chez les Juifs, renforce aussi cette idée de la disparition de la mort, ou plus exactement, de l'engloutissement de la mort dans la vie. Alors, quel est le message, chers amis ? Il est écrit que les cœurs ne s'alourdissent pas des inquiétudes de la vie. Voilà ce qu'il faut retenir ce matin. Que vos cœurs ne s'alourdissent pas des inquiétudes de la vie. J'aime bien ce terme « alourdissent », « s'alourdissent ». Vous voyez, c'est comme les paupières qui sont fatiguées, qui ont envie de dormir. C'est ça qui est dit. Que vos cœurs ne s'alourdissent pas. C'est comme si on tombait dans l'engourdissement, on est pris par la vague. Et donc pour nous qui croyons la fin de ce monde, ce qui se passe devrait nous secouer et non nous faire dormir. À être éveillé et ne pas sombrer dans un sommeil ambiant du monde. Le monde est en train de dormir, vous ne le remarquez pas. Ils prennent une sieste qui dure en permanence. Et le mal les fait dormir. Dors bien, dors bien. Mais toi, résiste à ce sommeil ambiant. Malheureusement, pour la majorité, quand les cœurs s'alourdissent, les paupières aussi deviennent lourdes et nous tombons dans un sommeil spirituel. Je vous assure, on est dans cette époque-là. Beaucoup vont reculer dans la foi. Malheureusement. C'est le temps d'un sommeil spirituel. Et Jésus est très clair et nous met en garde. Luc chapitre 21, verset 36. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Cela parle de quoi ? Cela parle de vigilance, de ne pas tomber dans cette atmosphère de sommeil ambiante, assez lourde, comme une chape de plomb. À l'image de ceux qui sont hypnotisés, vous voyez un peu les gens qui sont un peu hypnotisés, à moitié réveillés, à moitié endormis. Et j'ai l'impression que beaucoup, quand vous regardez un peu, il suffit de sortir en ville, dans les bus, dans les magasins. Moi, quand je marche, j'aime bien regarder un peu le comportement des gens, ça m'aide aussi à me faire des réflexions. Regardez un peu les gens, ils sont comme tous comme des zombies quand ils marchent. Vous ne savez pas où est-ce qu'ils vont. Ils sont ailleurs, ils sont quelque part. Ils rigolent, ils sourient, mais ils ne sont pas là. Des cadavres ambulants. Il y a un aspect cadavérique sans volonté ni de caractère, esclave du monde, n'arrivant pas à dire non, ce que le mal le fait gaver, mange ça, sans dire non. Black Friday, mange ça, dépense. Ils disent, ah, ça c'est la vie. Et pour clore ma méditation, je prends la phrase de Paul qui nous appelle dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Fais attention, c'est très contagieux ce sommeil qui est autour de toi, qui va t'engloutir si tu ne fais pas attention. Amen.